Plusieurs dizaines de milliers de morts et de disparus, des quartiers entièrement rasés et des bâtiments qui se sont effondrés. Le double séisme qui a frappé le Venezuela jeudi dernier a semé la désolation. Alors que les chances de retrouver des survivants s'amenuisent d'heure en heure, les habitants qui ont survécu manquent d'eau, de nourriture et de médicaments. Déjà, des voix s'élèvent pour dénoncer l'attitude de la présidente par intérim qui a remplacé Nicolas Maduro après sa capture par les États-Unis. Comment le Venezuela, affaibli après des années de sanctions américaines, va-t-il réussir à faire face aux conséquences du double séisme ? Et le fragile équilibre économique et politique du pays pourrait-il vaciller ? Dans la deuxième partie de ce podcast, je poserai la question à Laurence Debray, journaliste et écrivaine franco-vénézuélienne. Elle a notamment réalisé le documentaire « Venezuela, l'ombre de Chavez ». Je suis Céline Hussonnois-Alaya, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM. Bienvenue. Des quartiers entiers totalement rasés, des immeubles effondrés, des montagnes de gravats et des rues méconnaissables. Plusieurs dizaines de milliers de bâtiments ont été détruits ou endommagés lors du double séisme qui a frappé le Venezuela jeudi dernier. Les destructions ont enseveli tous ceux et toutes celles qui s'y trouvaient. Depuis la catastrophe, c'est la course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants. Et les rares sauvetages donnent lieu à des scènes de joie. Comme quand ce nourrisson est retrouvé vivant dans les ruines de la Guéra, ville côtière où le double séisme a semé la désolation. Le bébé est resté plus de 32 heures sous un amas de décombres. Sur les images, on le voit passer de bras en bras jusqu'à rejoindre sa mère dans une ambulance, elle aussi retrouvée vivante. Les habitants sont désespérés, comme cette femme qui appelle à l'aide pour retrouver son fils.
Je n'arrive pas à les convaincre de m'aider et d'envoyer des gens pour nous aider à enlever les décombres parce que mon fils est là. Alors s'il vous plaît, venez, envoyez du personnel.
Une trentaine de pays, dont la France, ont envoyé des sauveteurs, des chiens, du matériel et de l'aide humanitaire. Des renforts qui ont permis de sauver des vies, comme l'indique sur BFM le directeur général de la sécurité civile.
L'espoir existe jusqu'au dernier moment. On a effectivement 85 sapeurs-sauveteurs qui ont été projetés dès ce week-end au Venezuela, qui sont à pied d'œuvre depuis leur arrivée. Et hier, ils ont pu, avec l'aide de leurs collègues américains, sauveteurs américains présents sur place, ils ont pu sortir vivants des décombres un père et son fils.
Un père et son fils retrouvés vivants et extraits des décombres 4 jours après la catastrophe à Caraballeda, une ville côtière au nord de la capitale Caracas et l'une des plus touchées. Tous deux ont été retrouvés nus, recouverts de poussière, blessés, mais vivants. Mais la plupart du temps, les histoires ne finissent pas aussi bien. C'est le cas de Hector Bello, un footballeur vénézuélien. Son épouse de 28 ans a protégé leur petite fille en se recroquevillant contre son corps. Toutes les deux ont été retrouvées dans les décombres de leur immeuble, mais seul l'enfant a survécu. Il lui rend hommage sur les réseaux sociaux.
« Je veillerai à rappeler à notre petite fille à quel point tu étais merveilleuse et combien tu l'aimais. Je lui raconterai comment tu l'as sauvée, mon amour, comment tu as donné ta vie pour notre fille, comment tu as été une femme courageuse qui ne l'a jamais abandonnée, même au moment de ton dernier souffle. »
Lucas Trejo, un autre footballeur vénézuélien, a lui perdu son épouse et leurs deux garçons alors qu'il était en stage d'entraînement avec son équipe. Et il les a cherchés pendant 3 jours avant que les sauveteurs ne retrouvent finalement leur corps sans vie. Une horreur pour les bénévoles qui recherchent les victimes.
Le plus difficile, c'est quand nous ressentons de l'espoir dans les tunnels où nous entrons, en rampant, en dégageant les décombres, et que lorsque nous atteignons nos cibles, nous les trouvons sans vie.
Désormais, les chances de retrouver des survivants sont quasi nulles. Les sauveteurs en sont conscients.
Nous travaillons à la recherche de signes de vie. Malheureusement, l'effondrement est total et il y a peu de chances de retrouver des personnes vivantes. Ce que nous faisons maintenant, c'est récupérer ceux qui sont déjà morts.
Le double séisme a déjà fait près de 2000 morts et plusieurs dizaines de milliers de disparus. Un bilan qui pourrait s'alourdir dans les prochains jours. Les autorités se concentrent à présent sur le recensement et l'identification des victimes. Car quand la terre a tremblé, il était un peu plus de 18 heures. La plupart des gens étaient chez eux, mais ils n'avaient pas leurs papiers d'identité sur eux. Les morgues sont dépassées et la gestion des morts s'avère parfois confuse. Un homme raconte aux médias en ligne Efecto Cocuyo être allé chercher le corps de sa sœur à la morgue. Mais c'est celui de quelqu'un d'autre qu'on lui a donné. Une femme a elle-même retrouvé parmi les décombres de l'immeuble familial les corps de ses beaux enfants, un frère et une sœur âgés de 17 et 20 ans. Elle explique qu'elle a inscrit leurs noms sur leurs jambes, puis les a recouverts d'un morceau de scotch afin que les noms ne s'effacent pas avant de remettre leurs dépouilles aux autorités. Mais aujourd'hui, elle ne sait pas où ils se trouvent. Elle s'est rendue dans plusieurs morgues, a ouvert une centaine de sacs mortuaires, ils n'y étaient pas. Personne n'a pu lui dire où ils sont. Les médecins réclament même du formol pour conserver les corps afin d'avoir le temps de les identifier. Sur le port de la Guéra, des centaines de corps sont entassés dans des morgues de fortune à ciel ouvert, rapporte l'envoyé spécial de RFI. Avec plus de 30 degrés, l'odeur est insoutenable. Mais ces corps qui ont passé plusieurs jours sous les décombres ne peuvent pas attendre. Alors des fosses communes sont creusées à la va-vite, on les enterre en les recouvrant de chaux. Eux ne seront jamais identifiés. Aux conséquences de la catastrophe naturelle s'ajoute du chaos. Alors même que les secousses n'avaient pas encore cessé, des magasins étaient déjà pillés. Ce que raconte avec horreur cette Vénézuélienne dont la maison a été partiellement détruite.
Ils ont pillé cet endroit, le propriétaire est mort. C'était un Chinois. Tu vois, ils l'ont sorti grâce à tous les voisins, ils ont soulevé cette plateforme qui s'était effondrée. En fait, ils ont enjambé son cadavre pour piller. C'était un supermarché plein à craquer et ils l'ont complètement vidé. Tu trouves ça juste que notre peuple s'en prenne à son propre peuple ?
Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un groupe de personnes au milieu des ruines se passer des cartons d'appareils électroménagers sortis d'un magasin effondré. Sur d'autres images, des cartons de marchandises sont fixés au toit de voitures ou sur des motos. Toujours sur les réseaux sociaux, des policiers et des militaires sont accusés de vol dans les maisons, voire sur les dépouilles des défunts. Des scènes de pillage qui suscitent l'indignation.
C'est vraiment une catastrophe parce que nous sortions de là des gens qui étaient ensevelis, qui étaient morts. Et au moment même où nous étions en train de sortir des personnes, juste à ce moment-là, ils pillaient. Les gens étaient devenus fous, pillant et emportant tout. Le jour même, il était un peu plus de 6 heures. Et à partir de là, ça n'a été que des pillages. Hier, il y a eu une fusillade ici parce qu'ils ont essayé de forcer l'entrée de la Banque du Trésor. C'était un désastre.
Mais derrière ces pillages, il y a le dénuement le plus total des habitants. Il manque de tout, d'eau, de nourriture, de médicaments, mais aussi de sauveteurs pour continuer de chercher. Écoutez cette habitante de Caracas qui s'indigne que des victimes encore vivantes n'aient pas été secourues sous les décombres.
On dit qu'il y a encore des gens en vie là-bas. Mais il semble qu'il n'y ait pas assez de machines ni d'équipements pour déblayer tous ces décombres. Je demande, s'il vous plaît, d'envoyer des personnes capables de nous aider pour qu'on ne cesse pas les recherches.
La présidente par intérim, Delcy Rodriguez, qui a remplacé Nicolas Maduro après sa capture lors d'une intervention américaine en janvier dernier, fait face à la colère des habitants.
Ça suffit de faire une campagne politique au milieu d'une tragédie comme celle que nous vivons.
Son apparition médiatique pour annoncer l'arrivée de l'aide internationale dans l'une des zones les plus ravagées du pays a été jugée par de nombreux Vénézuéliens comme un spectacle indécent. Ils lui reprochaient sa mauvaise gestion de la crise, notamment le manque d'équipement des secouristes qui recherchent parfois les survivants à la lumière de leur téléphone portable. Et puis, pourquoi n'a-t-elle pas déployé l'armée, s'interrogent des Vénézuéliens qui ont parfois dû forcer des militaires à participer aux opérations de secours. Alors que le Venezuela n'a pas fini de compter ses morts, le pays semble au bord de l'implosion. Les Nations Unies estiment que près de 7 millions de personnes ont été touchées par les deux séismes qui ont frappé le Venezuela. Bonjour Laurence Debray.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine et historienne franco-vénézuélienne. Vous avez notamment réalisé le documentaire « Venezuela, l'ombre de Chavez ». Le bilan du double séisme qui a frappé le Venezuela risque d'évoluer dans les prochaines heures, mais on parle à ce jour de près de 2000 morts et 50 000 disparus. Vous qui avez vécu au Venezuela, vous qui avez grandi, vous connaissez bien le pays. Quelle a été votre réaction quand vous avez découvert l'ampleur du désastre ?
Je me suis demandé si une malédiction pesait sur le Venezuela. Après avoir eu 20 ans de chavisme, on avait maintenant la nature qui se réveillait aussi contre nous. Le fruit est une immense tragédie qui ne fait qu'empirer de jour en jour d'ailleurs. mais c'est une sensation vraiment d'immense désespoir et qui s'aggrave avec la distance. On se sent totalement démuni et il s'agit d'un peuple totalement démuni aujourd'hui.
Est-ce que vous parvenez à avoir des nouvelles de vos proches sur place?
Oui, alors au début, ça a été très difficile parce qu'Internet ne marchait pas. Les WhatsApp, on s'appelle habituellement par WhatsApp, ne marchaient plus. Mais j'ai pu quand même rapidement savoir que ma famille était miraculeusement saine et sauve. Mais ils me décrivent une situation de chaos total, puisque le Venezuela n'est plus un pays, n'est plus un État, comme on peut se l'imaginer en Europe. C'est vraiment une kleptocratie, en fait, une mafia qui ne vient pas du tout en aide aux Vénézuéliens. Et je pense que c'est très, d'autant plus douloureux de voir les militaires qui sont toujours aussi prompts à tirer sur les manifestants quand ils demandent le respect des résultats des élections et qui n'aident pas dans ces cas de grandes catastrophes naturelles. Et même, c'est même pas qu'ils n'aident pas, parce qu'apparemment ils sont totalement passifs, ou alors ils sont planqués dans leurs casernes, ou alors on les voit en train de piller les habitations détruites, et ou alors ils interdisent le passage des volontaires qui sont venus, qui viennent aider avec leurs mains, avec leurs pics, avec leurs marteaux. Il y a rien, il y a même pas de grue au Venezuela. Il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il y a plusieurs millions de personnes qui campent dans les rues. Il y a des milliers d'enfants qui ont perdu leurs parents. C'est une situation de grand désespoir. On estime à plus de 50 000 immeubles détruits aujourd'hui.
Quel est le quotidien de vos proches? Comment survivent-ils dans ce chaos?
C'est vraiment de l'entraide. Le peuple vénézuélien fait preuve d'une résilience immense parce qu'ils sont passés d'être un pays richissime grâce à la manne pétrolière, un pays du tiers-monde où quand il y a de l'eau et de l'électricité et quand on trouve des médicaments, c'est un miracle. Moi, mes cousines sont médecins et me décrivent l'état des hôpitaux déjà totalement délabrés. Et aujourd'hui, c'est vraiment la panique. Il manque de transfusions, il manque de médicaments, il manque de sang. Et ils amputent à tour de main, même dehors, même dans des conditions les plus extrêmes. En fait, c'est comme si une guerre nucléaire s'était abattue sur eux. Enfin, je ne sais pas comment ils vont réussir à se relever de cette situation. Est-ce que ça veut dire que c'est l'anéantissement d'un pays? Est-ce que ce gouvernement qui prouve qu'il ne prend pas en charge son peuple va rester? Et c'est une grande inconnue et pour l'instant on compte les morts et on est juste désespéré et on voit pas beaucoup de lumière au bout du tunnel. Je crois qu'ils sont très très reconnaissants de l'aide internationale qui arrive quand elle n'est pas volée à l'aéroport, quand elle n'est pas détournée. Je crois qu'on a du mal à imaginer en France, mais c'est un gouvernement, un État qui se retourne contre son peuple.
Comment la diaspora vénézuélienne réagit?
Alors la diaspora, tout de suite, moi j'habite en ce moment en Espagne, c'est totalement mobilisé de manière hallucinante aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, pour récolter des fonds, pour mobiliser les États qui ont très très vite envoyé des volontaires. Vraiment, tous les pays ont largement contribué face à ce désastre. Et puisqu'ils ont bien vu que le pays était, enfin le peuple vénézuélien était totalement dépourvu d'aide de son propre gouvernement. Donc toute la diaspora, c'est vraiment avec dans un grand élan de solidarité, a fait ce qu'il a pu. Malheureusement, parfois l'aéroport de Caracas est fermé, donc ça rend le gouvernement de manière arbitraire parfois le ferme. On dit que c'est pour empêcher la leader de l'opposition, Maria Corina Machado, de revenir, je ne sais pas. On vit des vidéos qu'on nous envoie des uns et des autres pour savoir si tout le monde va bien, quels sont les disparus, etc.
Vous le disiez, ce double séisme vient toucher un pays qui était déjà en grande difficulté. Il y a eu les années de Chavez, des années de crise, il y a eu les sanctions américaines. Est-ce que cette catastrophe pourrait faire vaciller le pays?
Justement, d'abord, la première question que je me pose, c'est est-ce que le pays va pouvoir se relever avec des infrastructures détruites? Et les habitations qui ne sont pas détruites ont toutes des failles Et donc, les gens n'osent pas revenir dans ces immeubles parce qu'ils risquent aussi de s'effondrer. C'était des constructions récentes qui ont toute une vingtaine d'années et qui avaient été construites sur l'initiative du gouvernement. Et elle s'est révélée avec des très mauvais matériaux et pas du tout selon les normes sismiques qui existent à Caracas, enfin au Venezuela, depuis longtemps. Maintenant que les Vénézuéliens voient dans leur chair que les militaires et que le gouvernement n'aident pas, mais n'aident absolument pas, là, je pense que ça risque de faire un schisme irréconciliable, parce qu'il y a une telle rage. Même les plus chavistes et les plus fidèles au gouvernement sont totalement ébranlés. En tout cas, c'est sûr que le pays va avoir beaucoup de mal à se relever de cette catastrophe naturelle. Et je ne sais pas si le gouvernement, ce gouvernement actuel qui montre son vrai visage de corruption et de désinvolture va pouvoir rester. En tout cas, je sais qu'il y a une immense reconnaissance vis-à-vis des humanitaires internationaux qui ont tous accouru.
Pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a des Vénézuéliens qui accusent la présidente par intérim d'une mauvaise gestion de la crise. Est-ce que la situation sociale pourrait devenir explosive ?
Pour l'instant, c'est plutôt la tragédie, le deuil, la souffrance et essayer de résoudre le quotidien. Parce que comme je vous disais, il y a des centaines de milliers d'orphelins. Il y a des millions de personnes qui vivent dans la rue, qui n'ont plus de toit. Déjà, ils n'avaient plus grand-chose, mais maintenant, ils n'ont même plus de toit. Donc, évidemment, pour l'instant, c'est plutôt le dénouement. Mais je pense, compte tenu de ce que les gens voient au quotidien, c'est-à-dire un manque de solidarité flagrant de la part du gouvernement, évidemment, ça devrait se retourner contre lui. Mais il peut toujours emprisonner le premier qui manifestera, ça reste un pouvoir autoritaire. Donc évidemment que les prisonniers, encore on estime environ 400 prisonniers politiques et les tortures sont quand même ont été prouvées par les Nations Unies et les différentes enquêtes internationales. Donc ils peuvent aussi faire taire les plus mécontents.
Et les prochaines semaines s'annoncent compliquées au Venezuela. Certaines régions souffrent de pénuries alimentaires et l'Organisation mondiale de la santé redoute des épidémies. Merci Laurence Debray d'avoir répondu à mes questions.
Merci beaucoup, merci à vous.
Merci à Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de ce podcast et à Naël Aubeuf qui m'a aidé à le préparer. Et merci à vous d'avoir écouté Le Titre à la Une. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.